SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à tous, vous êtes en compagnie de François Van Tom pour ce programme copieux en ce dimanche 12 octobre. Nous aurons entre autres le plaisir de retrouver la suite d'Europa Voice et c'est au tour de l'Alliance française de Brisbane de nous présenter leurs différentes activités. Nous ne manquerons pas le portrait de la semaine consacré à Robert Badinter, sans oublier la suite de notre interview sur la Biennale de photographie. Belle journée en notre compagnie sur le programme en français de SBS Radio.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
En février 2024, lors de l'hommage national rendu à l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter, décédé à 95 ans, Emmanuel Macron annonçait sa volonté de le voir intégrer le Panthéon. Une promesse tenue puisque l'ex-ministre de François Mitterrand a rejoint plusieurs grands noms de l'histoire de France. François Vantôme, Robert Badinter est donc entré au Panthéon le 9 octobre et cette date n'est pas choisie par hasard.
Oui, en effet, cette date revêt une forte symbolique et n'est pas le fruit du hasard. Le 9 octobre 1981 marque en effet l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi abolissant la peine de mort en France après un long combat intellectuel et politique mené par Badinter et ses alliés. Cette date est devenue le symbole d'un tournant majeur dans l'histoire des droits humains en France. Cette journée a laissé une trace dans la mémoire collective comme un moment où la République a affirmé une valeur universelle. La vie humaine mérite protection et réclusion plutôt que la sanction suprême.
Quel était le contexte en 1981? C'est sous l'impulsion de Mitterrand donc que cette volonté d'abolir la peine de mort a pris forme.
Oui, le contexte de 1981 est crucial et l'impulsion de François Mitterrand a été déterminante. À l'élection présidentielle de 1981, la France entre dans une période du tournant politique marquée par l'arrivée d'un gouvernement de gauche dirigé par Mitterrand et la mise en œuvre d'un programme ambitieux de réforme. L'abolition de la peine de mort est rapidement devenue l'un des symboles phares de ce tournant, témoignant d'un rehaussement des droits civils et d'un réajustement des valeurs républicaines face à des réalités sociales complexes. Ce cadre politique permet à Badinter, alors garde des Sceaux, d'inscrire son combat dans une dynamique plus large. Modernisation de la justice, renforcement des garanties procédurales et alignement progressif avec les normes européennes et internationales en matière des droits humains. Le gouvernement de gauche privilégie des réformes qui marquent une rupture avec certaines pratiques juridiques antérieures et ambitionne de clarifier le rôle de l'État dans la protection de la vie humaine. Dans ce contexte, l'abolition de la peine de mort est présentée comme une finalité cohérente avec l'idée d'un État de droit qui respecte la dignité de chacun.
À l'époque, l'opinion publique était fortement favorable à la peine de mort. Badinter a tenu bon lors de ses discours pour convaincre.
Oui, à l'aube des années 80, l'opinion publique française restait encore largement favorable à la peine de mort sur une base rétributive et de dissuasion nourrie par des inquiétudes liées à la sécurité et à la criminalité. Alors face à ce contexte, Badinter a insisté sur le fait que l'exercice de la justice doit rester fidèle à des valeurs de dignité humaine et de prudence procédurale, et non se nourrir de la vengeance ou d'un sentiment de justice expéditif. Son discours s'appuyait sur plusieurs axes forts pour convaincre. D'abord, l'argument éthique. L'État ne peut pas, en tant que garant du droit à la vie, se livrer à l'outil ultime de l'exécution. Ensuite, l'argument juridique. La peine de mort est irréversible et repose sur le risque irréversible d'erreurs judiciaires. Les procès et les mécanismes d'appel restent profitables pour corriger les éventuelles fautes. Mais la peine capitale ne permet pas de rétablir une vie humaine une fois celle-ci irrémédiablement exécutée. Troisièmement, l'argument statistique et pratique. Malgré les prétentions sécuritaires associées à la peine de mort, les chiffres ne démontrent pas une réduction certaine de la criminalité et la justice peut fonctionner autrement avec des peines alternatives proportionnées et des assurances procédurales renforcées. C'est avec cette approche que Badinter n'a pas seulement cherché à convaincre par des chiffres ou des slogans, il a tenté de dialoguer avec une opinion publique diverse en avançant une vision positive de la justice. Plus humaine, plus sûre et plus digne.
Finalement, c'est un succès retentissant le 9 octobre 1981 lors du vote pour valider le texte.
Oui, le vote du 9 octobre 1981 a abouti à l'adoption de la loi qui abolit la peine de mort. Cela marque une rupture nette avec une pratique qui avait duré des siècles en France. Et cela a ouvert une ère nouvelle pour le système judiciaire et les droits humains du pays. Le succès est retentissant. Dès le lendemain, la Chambre basse vote le texte porté par le ministre de la Justice, l'adoptant par 363 voix contre 117. Certains députés de droite joignent même leur voix à la majorité de gauche, à la star de Jacques Chirac. C'est donc en toute logique que la loi portant abolition de la peine de mort est promulguée le 9 octobre 1981. Son article premier tient en 6 mots lourds de sens « La peine de mort est abolie ». Depuis, l'abolition de la peine de mort a été renforcée par la ratification de textes communautaires et surtout par son entrée dans la Constitution en 2007. Désormais, l'article 66.1 dispose que nul ne peut être condamné à la peine de mort. Alors, au-delà de l'acte parlementaire, le 9 octobre devient un moment de référence dans l'histoire de la République où la voix d'un ministre comme Badinter et celle de nombreux députés se sont unis pour écrire une page de progrès humain et de modernisation du droit. Aujourd'hui, Badinter est perçu non seulement comme l'emblème d'un engagement inlassable en faveur des droits fondamentaux et du progrès civil.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Jean-Philippe Botin, qui est le nouveau directeur de l'Alliance française de Brisbane depuis quelques semaines déjà. Bonjour et bienvenue à nouveau sur nos ondes, Jean-Philippe.
Ah, bonjour Jean-Noël, je suis très content de t'entendre à nouveau, comme tu dis, puisque j'ai quitté l'Australie en 2003 et tu y travaillais déjà, tu étais un jeune passionné de radio à l'époque et moi j'étais un jeune directeur aussi.
Ah oui, voilà. il faut rappeler aux gens que vous étiez à un moment le directeur de l'Alliance française de Melbourne.
Ouais.
Au début des années 2000.
Voilà, c'est ça. Je fais le passage à l'an 2000 à Melbourne. Et puis, on a fait aussi le centenaire du pays à Melbourne avec les manifestations culturelles fort intéressantes et très, très belles. Donc voilà, j'étais là à ce moment-là et j'ai quitté en 2003, effectivement.
C'est un nouveau poste dans un nouvel État. Comment ça se passe au Queensland et quelles sont, disons, les impressions de l'Australie maintenant, 20 ans après?
20 ans après, hein, c'est comme Alexandre Dumas. Très content, vraiment très content d'être de retour et j'ai l'impression de revenir vraiment dans un pays que j'aime bien, que je connais bien. Je connais bien le Queensland parce que j'ai fait beaucoup, quand j'étais à Melbourne, j'avais mon vieux Jack Harrow 4x4 et j'ai fait énormément de tours en Australie, des très grands tours, 10 000 kilomètres ou plus. Et j'ai fait beaucoup du Queensland, notamment la Cape York Peninsula, toutes ces choses-là. Et oui, je ne connaissais pas Brisbane parce que j'évitais les grandes villes quand j'allais. C'était ouais. Plutôt pour le bush et les expériences de bush. Et voilà, donc je retrouve un peu le Queensland que j'aimais bien. Et je dois avouer que je suis assez épaté par la ville de Brisbane, hein. C'est vraiment quelque chose, une ville qui est bouillonnante, vibrante, et puis avec un climat quand même, waouh, assez exceptionnel, quoi. Il y a un côté tropical, un côté la végétation aussi. Ouais, et puis, tu sais, ma famille habite à l'île de la Réunion, et je retrouve des habitats un peu similaires, des cases créoles comme ça, qui sont très belles, et une végétation luxuriante, et puis cette rivière, moi, je suis tombé amoureux de la rivière Brisbane. Déjà maintenant, comme ça, au bout d'un mois, j'ai décidé d'y aller X fois, prendre de City Cat et comme ça, méditer sur le pont du bateau. Non, non, très chouette ville. Une très jolie alliance aussi, avec plein de beaux projets. Donc oui, la vie est belle.
Parlons un petit peu de ces projets pour Brisbane.
L'idée pour l'instant, c'est que je rencontre le maximum des acteurs qui intéressent une alliance, quoi. Donc là, j'essaie de rencontrer tous les acteurs culturels, les acteurs éducatifs, les acteurs de la vie francophone, française. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour un peu dire qu'on ouvre nos portes aussi au monde français, mais aussi au monde francophone. Donc, je pense à tous les membres de la des communautés africaines francophones de Brisbane, les Mauriciens francophones, tu vois ce que je veux dire, les habitants du Pacifique, les communautés du Pacifique francophones ou partiellement francophones, tout cela, s'ils veulent me contacter, qu'ils n'hésitent pas parce que on aimerait bien les avoir auprès de nous, voir un petit peu ce qu'ils font. Et puis, je contacte aussi tous les communautés européennes aussi. On a déjà fait une petite première réunion avec le German Club, tous les clubs et associations des pays de l'Union européenne et du continent européen. Enfin, donc j'essaie un peu de voir pour l'instant, de rencontrer tout le monde dans ces différents axes. Et puis aussi, on essaie de rencontrer les acteurs culturels et éducatifs du GABA, donc du World, où est installée l'Alliance et où je me suis installé aussi. Voilà, c'est un petit peu ça pour l'instant. Ouais. On essaie aussi de faire ce que j'appelle de l'entrisme culturel, c'est-à-dire d'essayer de s'associer à tous les projets qui ont de près ou de loin une odeur de français. Par exemple, on a soutenu le New Farm Queer Festival qui se termine ce week-end. Oui. Parce qu'ils ont présenté 3 films français. Et donc d'ailleurs on s'est associé à eux et je présenterai le film Ma mère avec l'excellente Isabelle Huppert samedi à 18h40 au New Farm Cinema à Brisbane. Donc ça c'est aussi on aura le projet César Franck avec le QSO, donc là le 10 novembre. Donc on essaie de s'associer aussi à tout, donc tous les projets qui ont une odeur de français, une odeur de France. Et puis nous, on est en train de préparer sérieusement le grand événement que tout le monde attend, le Beaujolais. Donc on va faire un gros événement Beaujolais là, le samedi 22 novembre. Donc les informations, la raffle est déjà en place. On a un très très beau premier prix d'un voyage en Nouvelle-Calédonie. Donc avec Air Canin qui nous sponsorise pour cela. Donc on est déjà en route sur toute une série de projets. Et puis bien sûr, on est déjà parti sur le French Film Festival que je retrouve bien vivant et vraiment devenu une institution en Australie. Hein. Le French Film Festival, l'Alliance Française French Film Festival, c'est le plus gros festival du film français au monde.
En dehors de Cannes.
De films français à l'étranger.
Oui.
Hein, et qui propose uniquement une programmation française. Voilà, donc on le prépare déjà avec mes collègues des autres alliances que je salue ici. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ça. Et puis donc on est en train de monter des partenariats avec le Queensland Symphony Orchestra, le QPAC, Opera Australia, le QUT. On va rencontrer les gens de UQ. Tout ce qui a un Q dans son nom nous intéresse aussi. On s'est mis en rapport avec la mairie de Brisbane, avec le bureau du Lord Mayor pour l'interculturel, pour travailler sur s'impliquer dans l'interculturel. Voilà.
Ben, j'imagine que, Jean-Philippe, les événements réguliers qui existaient, qui vont continuer, comme
oui,
je pense au Book Club, par exemple, au Ciné Club, rendez-vous de conversation.
Exactement. Tout. Alors, la rentrée, c'est cette semaine. Voilà, parce qu'on parle maintenant des activités in situ, hein, dans les murs de l'Alliance. Cette semaine, c'est la semaine de rentrée. Donc, Dimitri, qui est notre responsable des cours, et les professeurs sont tous, et puis Nathalie, qui s'occupe de l'administration, sont tous vraiment extrêmement occupés en ce moment. Pauline et moi, on les laisse tranquilles. Pauline qui s'occupe de la culture avec moi. Enfin, moi, je m'occupe aussi de l'école de langue, bien sûr, mais on les laisse un peu tranquilles parce qu'ils sont très, très occupés avec la rentrée. Et puis, les rendez-vous normaux, j'ai rencontré la prof du book club qui s'occupe du book club et qui est passionnée de littérature. On a aussi nos rendez-vous des jeux tous les mardis soirs. Toutes les activités, bien sûr, continuent. J'essaie de m'intéresser un peu et de rencontrer tout le monde à l'Alliance même.
Il y a cette exposition Microfolie, n'est-ce pas?
Alors, la Microfolie continue. On est en train de préparer quelque chose pour début novembre. Pour la programmation régulière, il suffit d'aller sur un moteur de recherche et de taper QUT The Cube ou QUT Microfolie, et là, il y a la programmation régulière. On essaie de faire des projets supplémentaires avec la Microfolie, soit au Cube, donc QUT, soit à l'extérieur du Cube. On est aussi, au niveau des projets, en train de préparer une membership spéciale pour les écoles, avec une offre uniquement pour les écoles de Brisbane, hein, les écoles secondaires de Brisbane, avec un package qu'on leur offrirait. Et puis aussi un dernier projet de l'école de langue. Enfin, on a notre finale du concours de poésie. Alors, moi qui ai dirigé l'Alliance française de Melbourne, il y a Berthe Mouchette, mais c'est une institution inégalable, bien sûr. Nous, c'est beaucoup plus modeste que le concours de poésie Berthe Mouchette, mais c'est un peu le même objectif de toucher les écoles. Donc on a la finale le 16 octobre. Dans nos locaux, les finalistes se réunissent et on déclarera les vainqueurs. Et puis dernière chose aussi, on est en train de préparer pour Pâques un nouveau séjour linguistique en France. Oui. Et ça sera en Polynésie française, à Tahiti, donc comme on avait déjà fait une fois, en Nouvelle-Calédonie, une fois en Polynésie. Pour Pâques, ça sera en Polynésie, et puis bien sûr pour l'année prochaine, dans l'hiver austral, on aura la Nouvelle-Calédonie. Voilà.
Un message pour les francophones, les francophiles qui nous écoutent au Queensland, pour venir découvrir l'Alliance française de Brisbane.
Voilà, alors, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Vous êtes francophone, vous êtes francophile, vous venez d'arriver, vous êtes là depuis longtemps, vous êtes une association, vous êtes un individuel, vous êtes français, vous êtes des multiples communautés francophones de Brisbane. On est là pour vous, vous êtes là pour nous, on fait partie de la même équipe, on a envie de vous. Hein, on a plein de projets pour vous et puis vous avez sans doute plein de projets pour nous, donc on est là à votre écoute. Hein. Un petit mail, un petit coup de téléphone, vous passez par ici, on est là.
Jean-Philippe Botin, merci à vous, bonne continuation et à très bientôt sur SBS en français.
Jean-Noël Ducasse, merci beaucoup et à bientôt, au revoir.
Votre communauté, vos conversations, SBS French.
Merci Claria Luciani pour cette grenade qui nous a fait vibrer cet après-midi. On se retrouve dans quelques instants sur SBS en français.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
De retour dans Europa Voice, deuxième partie, toujours avec Nathanaël. Nathanaël bloque cette dissolution. Alors, ça a été, et là, je voudrais aussi extrapoler sur une potentielle ou une demande de démission du président de la République. La dissolution, honnêtement, elle apporterait quoi? Parce qu'aujourd'hui, la France, elle est en gros divisée en trois tiers. Est-ce que si on emmène les Français au bureau de vote, encore une fois, pour une nouvelle élection législative, on risque de reculer pour mieux sauter et se retrouver justement avec ces mêmes trois tiers dans l'Assemblée et au fait, au final, pas avancer.
Alors, en fait, la dissolution, Christophe, je vous rejoins, en fait, elle n'apporte rien, si ce n'est encore plus d'instabilité. Puisque la dissolution, alors elle est possible, ça c'est le premier élément, entre deux dissolutions en France, constitutionnellement, il faut attendre un an. C'est pour ça que, par exemple, avec François Bayrou, c'était pas possible, après Michel Barnier, c'était pas possible, maintenant Sébastien Lecornu, sa démission, c'est possible puisque la dernière dissolution en France est arrivée en juin et les dernières élections en juin-juillet 2024. Donc on est plus d'un an après juin-juillet 2024. Donc c'est techniquement, constitutionnellement possible. Sauf qu'en fait, la dissolution, ce qu'elle a apporté, la dissolution l'année dernière, c'est simplement une instabilité parlementaire puisque aucun bloc n'a la majorité au Parlement. Il y a une espèce de bloc central. Il y a un bloc d'extrême droite et il y a un bloc de gauche et d'extrême gauche. Une dissolution ne rendrait pas les choses plus claires et on n'aurait pas de majorité, on n'aurait pas de groupe majoritaire très certainement. Donc la dissolution, pour moi, elle n'apporterait rien. Et Sébastien Lecornu, hein, c'est un élément qu'il a réitéré lors de son allocution sur le plateau du 20h de France 2 à Paris le 8 octobre 2025. La dissolution est de toute façon quelque chose dont la majorité des députés sont contre à l'Assemblée nationale, puisque eux-mêmes se rendent compte que ça ne résoudrait absolument rien. Ce qui est encore une fois certainement plus probable, c'est la nomination d'un Premier ministre. Et là, par contre, Christophe, il y a beaucoup de scénarios par rapport à cette nomination.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que, encore une fois, quand vous écoutez cette Europa Voice, peut-être ce sera déjà passé. On sera un peu caduc dans le fait où il y aura peut-être un premier ministre de gauche ou un premier ministre écologique. Enfin, la réalité, c'est que Bruno Lecornu, hier, a dit, il faudra 48 heures. Le président nommera un nouveau premier ministre dans les 48 heures. Bon, on l'a déjà entendu avant, hein, ça, et ça s'est pas passé. À quel point on peut croire, justement, à cette annonce?
Ah, bah, de toute façon, Christophe, il faut, expédier. Vous m'excuserez l'emploi du terme, les affaires courantes. Donc, il faut de toute façon un nouveau gouvernement. La question, c'est quelles sont, et on peut les regarder ensemble, quelles sont les hypothèses de ce gouvernement. Il y a la possibilité de nommer un Premier ministre du bloc central de la majorité parlementaire. Je vous dirais en rationaliste ou pour philosopher un peu que les mêmes effets, les mêmes causes produiront les mêmes conséquences. Donc, ça ne sert à rien de nommer un Sébastien le cornu bis. Je ne vois pas pourquoi le président de la République nommerait quelqu'un de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. De toute façon, ces derniers, je pense, n'accepteraient pas. Encore une fois, pas de boule de cristal à Europa Voice, mais pour moi, c'est un scénario difficilement envisageable que Emmanuel Macron. Je veux dire, ce serait quand même extrêmement symbolique. Les deux autres scénarios qui s'offrent à nous, Christophe, sont les suivants. C'est un gouvernement technique, c'est-à-dire qu'à la tête de la France, on aurait non pas un Premier ministre politique, mais on aurait un Premier ministre technique, un haut fonctionnaire, pas forcément quelqu'un de la société civile, mais un haut fonctionnaire capable…
Presque dans la belle tradition belge, hein. Ça, si on fait une aparté…
Dans la tradition belge, ou un Jean Castex, hein, si vous voulez, pour voir pas forcément très loin de ce qui a déjà été fait en France. Donc ça, c'est une des options. Et puis la deuxième option, qui n'a pas encore essayé, je ne dis pas que c'est Lucie Castet, mais c'est un Premier ministre de gauche, pour le coup, mais un vrai Premier ministre de gauche. Et alors là, on serait dans une situation de cohabitation qui aurait aussi l'avantage de débloquer la situation au Parlement, parce que si la gauche, sous certaines conditions, hein, mais si dans
cette situation gauche, hein. De cohabitation… C'est pas toute la gauche.
Non, ce serait pas l'extrême gauche, mais ce serait certainement une bonne partie de la gauche. Ça permettrait peut-être au bloc majoritaire d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc voilà.
Mais là, le problème, on est bien d'accord, que c'est la réforme des retraites. C'est qu'en fait, la réforme des retraites, la gauche et le parti du président de la République ne sont pas d'accord du tout sur cette réforme. Et ça, c'est ce qui est la clé autour d'un gouvernement de gauche ou pas.
C'est une des clés, mais. Si ce n'était que ça, Christophe, je dirais il y a énormément d'éléments de blocage. C'est-à-dire que la gauche a aussi besoin quand même de maintenir ses relations avec l'extrême gauche. Hein. Alors Glucksmann semble se détacher un petit peu de potentielles alliances, mais encore une fois, la gauche toute seule pour l'instant, quand je parle de gauche, je parle d'une gauche parlementaire, hein, socialiste, voire même écologiste, toute seule n'existe pas. Il y a ça déjà comme problème. Il y a les questions de fond. La réforme des retraites est un très bon exemple aussi de dissonance totale entre la majorité présidentielle et la gauche. Et puis, il y a aussi l'enfer de Matignon d'une certaine façon. C'est-à-dire que si la gauche là passe et une de ses personnalités devient Premier ministre, elle risque aussi de se griller d'ici à 2027. Et donc, ce serait peut-être un dernier clou dans le cercueil de la gauche parlementaire incapable de gérer la France avec déjà un nombre de parlementaires réduit depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Donc il y a de toute façon beaucoup de choses que, même si elle pousse à avoir ce poste de Premier ministre, la gauche doit bien prendre en compte avant d'accepter, si encore une fois, le cas échéant, le président de la République nomme un Premier ministre de gauche.
Voilà, tout à fait. Alors maintenant, on va élargir le débat. Il y a une Madeleine de Proust dans la vie politique française qui revient depuis très très longtemps, c'est la démission et le départ d'Emmanuel Macron. À quel point pour vous c'est plausible? À quel point pour vous c'est la solution? Et à quel point c'est ce qui devrait se passer dans les prochains mois, sachant que ça peut pas arriver tout de suite. Il y a un délai légal de 35 jours, je crois, entre le moment où il annonce une démission et il peut partir le plus rapidement, c'est 35 jours. Il faut aussi se rappeler derrière, ça changerait pas forcément grand-chose, puisque la personne en charge de créer ou de lancer cette nouvelle élection présidentielle, ce serait le président de l'Assemblée nationale, Larcher. Et est-ce que ça changerait beaucoup de la donne? C'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, qui n'a pas forcément un énorme dynamisme politique sur le changement des choses.
Alors pour l'instant, cette démission du président de la République, c'est en fait présidentielle anticipée, hein, puisque c'est ça derrière le but, hein, c'est que le président parte, mais qu'aussi les partis qui le réclament puissent avoir une chance d'avoir un de leurs candidats à la plus haute fonction de l'État. Elle est surtout réclamée par l'extrême gauche. Elle est surtout réclamée par les députés insoumis. Et faut le rappeler aussi, hein, c'est une des marottes, un des marronniers de Jean-Luc Mélenchon, c'est la 6e République. Et donc évidemment, si on change de République, on change aussi la manière dont les institutions fonctionnent et on change la personne qui est à la tête. Donc c'est vraiment pour l'instant quelque chose que l'extrême gauche réclame. L'extrême droite aussi le réclame, mais de manière un peu moins forte. Hein, c'est l'un ou l'autre, c'est plutôt pour l'extrême droite, c'est plutôt ou la dissolution ou la démission du président de la République. Alors pourquoi la dissolution pour l'extrême droite? Parce que il est évident que si demain les Français retournent aux urnes, le score de l'extrême droite ne fera que monter. Donc l'extrême droite, encore une fois, n'a très peu d'intérêt d'aller à Matignon. La démission du président, c'est une hypothèse, mais surtout une dissolution pour que le groupe d'extrême droite se renforce encore un peu plus. Dans les faits, c'est quelque chose qui est prévu par la Constitution. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé en France, notamment après la mort de Pompidou. Hein, vous avez le président du Sénat qui assure l'intérim. Donc ça, c'est pour les questions de faisabilité. En termes d'agenda politique, il ne faut pas non plus oublier, Christophe, pour nos éditeurs d'Europa Voice et d'SBS, que nous avons des élections municipales dans 36 000 villes/communes en mars 2026. Et donc, ça me semblerait un élément d'instabilité assez incroyable que le président de la République démissionne à maintenant 6 mois, même pas, d'élections municipales. Donc, s'il y a démission du président de la République, pour moi, la seule fenêtre de tir, elle est entre les municipales de mars prochain et les présidentielles d'avril-mai 2027, avec cette question en suspens, est-ce que ça vaut vraiment le coup de démissionner alors qu'il reste seulement un an de mandat? Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'éléments. Oui, c'est faisable techniquement, c'est prévu par la Constitution, mais en termes de timing politique, ça rajouterait quand même énormément d'instabilité parce que, ne l'oublions pas, il y a aussi ce budget qu'il faut voter avant le 31 décembre, et puis il y a tout le reste, hein, la question du coût de la vie, la question de la réforme des retraites, enfin, toutes les questions politiques. Donc, ce serait quand même... à mon avis, beaucoup d'instabilité et pas forcément quelque chose qui serait, envisageable pour l'instant, même si, encore une fois, ça n'est pas impossible, mais pour moi, ça arriverait plus tard dans l'année.
Absolument, affaire à suivre, en tout cas, il y a de belles affaires à suivre, et ça fera les bonnes heures de notre podcast Europa Voice. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Vous l'avez compris, on risque de reparler très longtemps de la politique française dans les prochains jours. Je vous rappelle d'ailleurs que l'intégralité de ce podcast est disponible en ligne sur notre site sbs.com.au/French. On fait une courte pause. C'était évidemment Manhattan Kaboul de Renaud en duo avec Axel Red. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Choisissez sbs.com.au/French comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités. Participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/French.
Quel est l'héritage de Catherine Leroy? Car elle a pu tracer un chemin pour les femmes avec les photos prises au Vietnam qui l'ont fait entrer dans l'histoire du photoreportage.
Oui, alors, c'est un peu comme M. Jourdain qui fait de la poule sans le savoir. Elle n'était pas consciente de ça. Elle ne s'en préoccupait pas. Il y avait une tradition féminine, mais très, très, très étroite en photographie dite de combat, de guerre. Évidemment, des personnages assez connus comme Lee Miller ou Margaret Bourke-White, qui étaient des Américaines, ou Dickie Chappelle, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure. Alors, c'était des Américaines, toutes les trois, et ça s'explique d'ailleurs très bien, parce que la Seconde Guerre mondiale et après la guerre, les photographes qui pouvaient se déplacer dans les zones de combat étaient essentiellement des Américains. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de photographes femmes, il y avait peu de photographes d'ailleurs du tout qui couvraient les combats, parce que l'Europe était occupée, parce que toute une salle, alors que les Américains, qui d'ailleurs avaient des moyens, des ressources à travers des publications extrêmement importantes comme Life et Look, et le National Geographic et Vogue qui offraient des contrats importants à leurs photographes, dont quelques femmes, dont j'ai mentionné le nom. Catherine Leroy était la seule femme, était indépendante, n'avait aucun souvenir particulier et était obligée de se débrouiller. Ouais. Débrouillée toute seule et avec une persistance, un courage tout à fait exemplaire.
Et comment est-ce que la dotation Catherine Leroy fait pour faire perdurer la mémoire de cette photographe?
Quand Catherine Leroy est décédée en juillet 2006, elle n'avait que 61 ans, elle n'avait pas vu un médecin depuis un quart de siècle ou un peu plus même, mais elle se sentait mal vraiment et elle est allée finalement à l'hôpital et a été diagnostiquée avec un cancer généralisé et deux semaines plus tard, elle est partie. Donc c'était vraiment terminal et elle a attendu la dernière minute quand, voilà. Moi, je l'avais vu quelques mois auparavant avec Don McCollin, le célèbre photographe de guerre britannique, à San Francisco, où il y avait un hommage qui lui était rendu à elle, Catherine Roy, et elle nous avait invité à venir parce qu'elle ne voulait pas être la vedette de son propre hommage et assister pour qu'il y ait des gens qu'elle respectait qui soient présents. Et on l'avait vu dans un état vraiment très détériorée, on était très préoccupés, et donc quand elle est morte quelques mois plus tard, on n'était pas très surpris. Mais c'est quelque chose d'extrêmement triste, elle a essayé de refaire une seconde carrière aux États-Unis, en Californie, pensant que peut-être en travaillant dans le monde de Hollywood, du show business, elle arriverait à gagner plus de sous, mais ça c'est une illusion. Moi, mes photographes de guerre ne sont pas toujours préparés à entrer dans un autre univers. Elle était, à mon avis, clairement victime du fameux syndrome post-traumatique. Elle ne le reconnaissait pas, mais elle en avait tous les symptômes, c'était clair. Et ça a été une fin de vie extrêmement difficile pour elle. Elle ne s'était jamais vraiment occupée de son héritage photographique, était dispersée à peu près dans le monde, dans des magazines, dans des agences filières ou autres, comme Gamma, SIPA, et des agences françaises. Et il nous a fallu, quand elle est morte, à quelques-uns des gens qui la connaissaient se sont dit, ça c'est terrible, mais c'est un personnage unique. Elle a été première lauréate en photographie du prix Georges Polk. Elle a été la première femme à recevoir la très prestigieuse médaille d'or Robert Capa. Tout son travail est dispersé. Elle va être complètement oubliée. Elle l'est déjà. C'est pas possible. On doit faire quelque chose. Et à quelques-uns, c'est ce qu'on a fait. On a passé 2 ans à essayer de regrouper tout le matériel qu'on pouvait à travers les connexions que nous avions. Et puis l'aide de la seule survivante de Catherine Leroy, sa mère, Denise Leroy, une petite dame absolument adorable de 93 ans, qui évidemment était très préoccupée par la situation et nous disait « Mais moi, je ne connais rien à tout ça, je ne sais pas comment m'y prendre. » On lui a dit « Ne vous inquiétez pas, on va s'en charger. » Mais elle a été une source d'information évidemment extrêmement précieuse. Et finalement, elle a été une source de plus que d'information parce que peu avant qu'elle ne meure elle-même, elle avait 93 ans quand on l'a rencontrée, quand Catherine Leroy est morte. Et à un moment donné, que j'ai compris que son héritage était destiné à aller à l'église catholique dans sa totalité, je suis allé la voir et j'ai plaidé avec elle de ne pas oublier la petite chapelle de Catherine Leroy. Et évidemment, elle a été surprise, elle a dit « Mais vous avez raison, je vais réécrire mon testament et je vais donner de l'argent à cette dotation, qui est une sorte de fondation à but non lucratif, extrêmement contrôlée par les autorités culturelles, etc. Et elle a fait don à cette dotation, donc, d'une part de l'œuvre dans sa totalité, les négatifs, les tirages, les diapositives, tout ce qui était écrit, tout ce qui était publié d'elle, qu'elle avait conservé chez elle, dans sa maison à Anguin. Et elle a aussi donné de l'argent pour pouvoir gérer tout ça, qui nous a permis d'entreprendre ce travail initial de regroupement, d'organisation des archives, et pour essayer de comprendre ce qu'on pouvait en faire. Il nous a fallu longtemps pour arriver à donner une forme qui nous menait en fait au livre, un aller simple pour le Vietnam, et donc à l'exposition, qui est la première exposition jamais tiré entièrement à partir du travail original et des négatifs et des diapositives de Catherine Auroy. C'est une grande première. Ouais. Et le hasard fait que c'est en Australie, des séries de rencontres, et je suis absolument ravi que ce soit là, et je crois que Catherine Auroy aurait aimé que ce soit là, parce que c'est un endroit un peu inattendu. On aurait pensé à la France, bien sûr, et aux États-Unis, où elle a quand même une réputation, certainement, dans les milieux professionnels, sinon auprès du grand public.
Orbot Pledge, merci infiniment de nous avoir éclairé sur les œuvres de Catherine Leroy, et peut-être un petit message à lancer aux gens qui nous écoutent pour les encourager à aller voir cette exposition à Ballarat dans le Victoria en Australie.
Oui, je crois que il y a quelque chose de très contemporain, hélas, j'allais dire, à propos de cette exposition, parce que c'est évidemment le Vietnam des années 60, mais ce Vietnam des années 60, c'est un conflit qui n'est pas extrêmement différent des conflits actuels à travers le monde, de l'Ukraine à Gaza d'ailleurs, où Catherine Auroy a d'ailleurs passé énormément de temps, parce que après le Vietnam, elle passera une dizaine d'années, peut-être un peu plus même, à travailler essentiellement au Moyen-Orient, et essentiellement ou en grande partie sur toute la question d'Israël et de la Palestine et des Palestiniens, et de ce conflit qui se poursuit encore. Et j'espère que cette exposition de Palara va être un premier pas vers la découverte de l'autre énorme chapitre du travail de Catherine Auroy, c'est-à-dire le Moyen-Orient essentiellement. Mais ce Vietnam, un regard 50 ans plus tard, puisque la guerre s'est terminée en 1975, il y a 50 ans exactement, est quelque chose d'extraordinaire, et de le faire à travers un regard de femme, c'est tout à fait remarquable. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de photographes féminins, importants, de toute nationalité. Mais à l'époque, certainement, c'était quelque chose d'extrêmement rare. Elle ne se proclamait pas particulièrement féministe ou pas. Elle était photographe, comme Dick Chappelle d'ailleurs, comme ça. Mais en fait, elles ont ouvert la voie à toute une génération de photographes tout à fait remarquables. Voilà, c'est un personnage remarquable, qu'il faut, oui. Avec ses défauts, avec ses, le livre les souligne tout aussi bien que ses qualités, mais c'est un personnage complet et qui mérite qu'on s'y intéresse à travers l'exposition et à travers le livre qui va sortir très prochainement.
Merci à vous et à bientôt.
Merci, merci, merci beaucoup.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et si une envie parfois je me sens, si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais tu le serais.
Tout oublié avec la plus célèbre des chanteuses belges du moment, Angèle évidemment.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
La pêche dans les rochers, rock fishing, peut être une activité pittoresque, surtout sur les côtes australiennes. Mais l'océan est imprévisible, ce qui rend la pêche dans les rochers également dangereuse. Un dossier de SBS News. Les autorités tentent de renforcer la sécurité en sensibilisant aux procédures et aux équipements de sécurité. Si certaines choses peuvent paraître évidentes, elles sont souvent négligées par les plaisanciers et les pêcheurs dans les rochers. Alex Barrow est le directeur général de Marine Rescue en Nouvelle-Galles du Sud. Il souligne l'importance d'équipements comme les gilets de sauvetage.
This is your typical horseshoe life jacket, and again a great piece of equipment for rock fishing because it's not cumbersome, so you can still fish quite easily. You can get access to your fishing equipment, but again, if you go in the water, it's easy to activate, and some of these are actually automatically activating. And of course, when it goes off, there's plenty of buoyancy to keep you and your head above the water. Importantly, before rescue crews can get to you.
Un gilet de sauvetage augmente de 50% vos chances de survie en cas d'accident entraînant une chute. Il est également important d'emporter une balise de localisation d'urgence. Alex Barrow explique que ce type d'équipement permet non seulement de prévenir les accidents, mais aussi de contribuer à votre survie si vous en possédez une.
This is an e-perb, which is required when boating more than 2 nautical miles off coast. But even if you're rock fishing, a personal locating device, which is much smaller than this, but applies the same technology, if you activate that beacon, that will go straight to the Australian Maritime Safety Authority, which will alert emergency services.
Les autorités recommandent également le port de chaussures antidérapantes pour la navigation de plaisance ou la pêche dans les rochers. Et dans certaines régions du pays, c'est désormais une obligation légale. 4% des décès par noyade en Australie chaque année est dû à la pêche dans les rochers, selon Alex Barrow.
Rock fishing can be a dangerous sport. We know that 8 people on average a year lose their life rock fishing in New South Wales. It's so important that they check their safety, check the conditions before they go, that they've got the right safety equipment with them, and they tell someone importantly where they're going fishing.
Les personnes nées à l'étranger représentent 60% des noyades liées à la pêche dans les rochers en Australie. Alex Barrow affirme qu'un peu de préparation peut également contribuer à votre sécurité.
Unfortunately, we see people from non-English speaking backgrounds overrepresented in our statistics, and that doesn't matter whether it's rock fishing or boating. So it's really, again, it's about putting safety front and mind. Make sure that they check the conditions before they either go boating or rock fishing, and again have that safety equipment ready and available, and importantly know how to use it.
Ce dossier de Sunil Awashti et Georgia Maher de SBS News a été produit par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
C'était la danse des négresses vertes. C'est déjà la fin de notre programme. J'espère que vous avez apprécié notre compagnie. Notre prochain rendez-vous en français sur SBS Radio, c'est mardi à 13h. En attendant, je vous invite à écouter tous nos programmes et podcasts sur notre site sbs.com.au/french. Profitez bien de votre journée.
aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.